Au mois de mai dernier, deux puissances nucléaires, l'Inde et le Pakistan, ont été au bord de la guerre à grande échelle. Depuis plusieurs années, la Chine travaille activement à étoffer son arsenal nucléaire pour tenter de rejoindre en ordre de grandeur les stocks des deux premières puissances atomiques, les États-Unis et la Russie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie brandit régulièrement la menace nucléaire et prétend au déploiement de nouveaux vecteurs, missiles à portée illimitée, drones sous-marins capables de créer des raz-de-marée. Et pendant ce temps, l'Iran continue d'essayer de se doter de la bombe et la Corée du Nord teste régulièrement ses vecteurs. Dans ce contexte, Donald Trump a décidé de relancer les essais nucléaires après plus de 30 ans d'interruption du côté des États-Unis. Si des rumeurs suggèrent que le président américain a en tête la négociation de nouveaux traités de désarmement, la conjoncture géostratégique de plus en plus volatile rappelle quant à elle les heures les plus inquiétantes de la guerre froide, avec Vladimir Poutine qui a de son côté annoncé que si les États-Unis reprenaient leurs essais nucléaires, la Russie ferait de même. Devons-nous commencer à vivre sous la menace de l'anéantissement nucléaire ? Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 8 novembre 2025, il est 21h34. Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée donc ce soir à la question du grand retour du nucléaire. Comme c'est l'émission hebdomadaire, elle sera suivie d'un live privé réservé à nos chers souscripteurs dans lequel je répondrai à leurs questions, grâce notamment à la veille de notre très cher Iruma qui est toujours là pour me soutenir dans l'arrière-boutique et qui vous surveille dans le chat, méfiez-vous. et bien sûr, je répondrai aux questions éventuellement assorties d'un don à la fin de l'émission et à l'émission également qui a été, à la question, pardon, qui a été la plus likée, c'est désormais une tradition, dans la précédente émission, dans les commentaires, pardon, ce qui vous incite à la fin de cette émission, après avoir parlé dans le chat, à venir dans les commentaires pour éventuellement poser votre petite question gratuite en espérant qu'elle sera sélectionnée. Voilà, donc j'y répondrai tout à l'heure. Enfin, dernière chose, cette semaine, vous avez le premier bulletin du mois qui est sorti. Le bulletin, c'est le bulletin gratuit, traditionnellement. Il y en a 4 dans le mois, mais si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, si ça vaut le coup de souscrire pour avoir les 3 autres, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, c'est l'actualité, j'aurais pu parler d'autres sujets, peut-être on en parlera dans les questions ensuite d'ailleurs, hein, comme l'élection de Mamdani, mais ça vaudra peut-être sur le coup de faire une émission complète là-dessus sur... pour une actualisation de la recomposition du clivage américain. Mais j'ai retenu cette actualité-là parce que c'est assorti d'autres choses qui, selon moi, font réapparaître une espèce d'ambiance de guerre froide. Vous savez, dans les années 80, ce qui a peut-être été le pic de la guerre froide, au sens où ça a été le moment où, véritablement, on a craint à nouveau la guerre nucléaire. C'est peut-être à ce moment-là que la peur de la guerre nucléaire a été la plus élevée. Parce que quand il y a eu la première peur... Avec la crise des missiles de Cuba dans les années 60, je pense pas que la population était aussi informée et aussi martelée d'informations à propos du risque de la destruction mutuelle assurée. C'était une notion qui était en train d'apparaître. Les Russes avaient la bombe atomique depuis une quinzaine d'années. Les Chinois ne l'avaient pas encore, me semble-t-il. Je crois que le premier essai, c'est quoi ? Les Chinois, si, c'était peut-être des 59, donc ils l'avaient peut-être quelques années avant. Mais enfin, il y a eu une espèce de grande peur comme ça à la fin des années Brejnev, notamment parce que dans les années 70, il y a eu une explosion, pour ainsi dire, du nombre de têtes nucléaires soviétiques. Donc c'est dans les années 70, si ma mémoire est bonne, qu'en masse, d'armes nucléaires, les Soviétiques ont rattrapé, voire dépassé, les États-Unis. Alors, c'était dans des proportions qui n'avaient plus aucun sens, dans le sens où, à la fin, vous avez 3-4 fois la capacité de détruire votre adversaire, alors qu'une fois que vous êtes à parité sur une capacité, déjà, ça suffit. Mais ça faisait naître clairement cette grande peur-là. Et c'était présent dans la pop culture, pour ainsi dire. Et notamment, vous aviez un film qui était très connu, dont j'ai déjà dû parler, je pense, il y a quelque temps, qui s'intitulait « Le jour d'après ». Que vous devez trouver d'ailleurs, que vous trouvez. J'avais mis un lien, je crois, dans le Telegram il y a quelques mois ou quelques années, peut-être maintenant la chaîne est assez ancienne pour que je puisse dire ça. Parce que ça se trouve, en fait, ça se trouve, vous le trouvez soit en anglais, soit même en français. Et The Day After, en fait, c'était un film qui illustrait vraiment la peur nucléaire dans les années 80 parce que. C'était un film qui concernait uniquement les Américains moyens, en fait, qui se passait pour une bonne partie dans le Kansas, je crois. Et en fait, c'est la guerre nucléaire vue du point de vue de la population de base, en fait. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas du tout de c'est pas un film catastrophe dans lequel vous voyez la présidence qui prend ses décisions, etc. Pas du tout. Vous êtes juste avec des gens qui vous suivez divers personnages. Qui entendent à la radio que ça monte en pression assez rapidement, et puis, mais ça va assez vite en fait. Hein. Et il y a cette escalade qui se fait très rapidement, et puis tout d'un coup il y a les missiles qui partent, et les gens voient, parce qu'ils sont dans le Kansas, donc c'est là qu'il y a les silos terrestres, hein, qui voient partir les missiles, et ils comprennent que en fonction de si les Russes ont tiré les premiers ou pas, ils ont entre, disons 20 et 40 minutes avant de voir tout péter, quoi. Puisque tout dépend si c'est les Américains ou les Russes qui ont tiré les premiers, vu qu'il faut à peu près une demi-heure pour qu'un ICBM aille taper de l'autre côté. Mais je pense que la moitié du film, voire les deux tiers du film, sont après les bombardements ou pendant les bombardements, si vous voulez. C'est-à-dire que vous voyez les gens souffrir des radiations, etc. Et après, vous voyez la situation après, avec le gouvernement, grosso modo, qui essaie de reprendre les choses en main, mais vous comprenez que c'est terminé, quoi. C'est déjà le nouveau Moyen-Âge, quoi, en fait. Mais c'est un film très intéressant, The Day After, mais qui évoque une époque. C'était sans doute pas le seul, c'est le seul qui me vient à l'esprit, parce que c'était un film assez complet. Vous en aviez d'autres. Vous aviez Wargame aussi, qui est un film très célèbre, qui pose la question, justement, de l'IA et de l'intérêt, en fait, du fait que vous ne pouvez que perdre. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce contexte, alors le film ne vient pas de là parce qu'ils n'ont pas décidé de le tourner en 10 jours après que la question revienne, mais dans ce contexte, vous avez un film qui est sorti sur Netflix, dont on a parlé beaucoup dans les médias, qui s'intitule House of Dynamite et qui parle de ça, c'est-à-dire qui parle de la guerre du carreau. Pour le coup, là, c'est un parti pris qui est totalement inverse d'une certaine manière de celui de The Day After. À partir du moment où vous suivez les instances dirigeantes américaines et tout le processus de décision, d'ailleurs, ça a été critiqué par le Pentagone qui a tenu à rassurer tout le monde en disant que les éventuels dysfonctionnements qu'on voyait dans le film, ça n'existait pas, notamment les dysfonctionnements. Je vais pas vous divulguer, donc je vais essayer de un minimum d'en parler, mais. C'est disons que comme ça aborde le milieu technique, le Pentagone s'est senti obligé de répondre. Mais ça dit quand même qu'on est revenu dans un temps où la question de la guerre nucléaire devient très importante. C'est pas le seul film qui est sorti sur Netflix dans ce genre-là. Il y en a un autre qui était. Alors je me souviens plus de son titre du tout. Désolé. C'est un film qui est sorti, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, avec Julia Roberts et Ethan Hawke, entre autres, et qui raconte une espèce d'effondrement comme ça de la société américaine, avec des gens qui se retrouvent, pareil, mais là, à nouveau du point de vue. Mais là, il n'y a pas de guerre nucléaire, me semble-t-il. Mais c'est le même idée d'attaque, etc. Donc on revient sur ces idées-là, et donc dans cette mouvance-là, on revient maintenant sur la question de la guerre nucléaire. Ce qui dit quelque chose, c'est très important sur le plan sociétal, je pense. C'est-à-dire que ça dit quelque chose véritablement de ce qu'est la peur à ce sujet. Euh, et, Et c'est pour ça qu'il m'a paru important d'aborder cette question, pas pour partir dans des grandes considérations techniques pour lesquelles je ne suis que partiellement compétent, mais pour réfléchir justement sur le retour de cette question et de ce que ça dit de l'état des tensions dans lequel on est. Alors je disais en introduction que Donald Trump, on ne connaît pas trop ses motivations dans la reprise des essais nucléaires. Il y a des gens qui disent, j'ai lu des articles là-dessus, je ne sais plus où, qui disent que c'est une mauvaise idée parce que les Américains, en fait, ont fait déjà énormément d'essais nucléaires historiquement, ont énormément d'informations là-dessus, ont aujourd'hui des capacités de simulation pour tester les ogives. Parce que quand on parle d'essais nucléaires, c'est les ogives, c'est-à-dire des explosions nucléaires dont on discute. Des essais de vecteurs, les Américains n'ont jamais cessé d'en faire. Toute puissance nucléaire fait régulièrement des essais de vecteurs pour montrer que ces missiles fonctionnent et donc elle peut délivrer ces têtes nucléaires. La question c'est sur les ogives, le test de détonation des ogives. Et sur les détonations des ogives, généralement, ils utilisaient jusque-là, depuis 30 ans, ils utilisaient des outils de simulation qui sont autorisés notamment par l'informatique et le développement de l'informatique. Et d'aucuns pensent que le fait de cesser les détonations d'ogives, ça autorise d'une certaine manière les Russes et les Chinois à le faire, et que c'est une erreur parce que les Russes et les Chinois auraient, peut-être encore plus les Chinois que les Russes d'ailleurs, puisqu'ils avaient un retard nucléaire à la base, déjà dans les années 90, alors que à la chute de l'URSS, il y avait une parité soviéto-américaine, que les Chinois auraient énormément, eux, à apprendre de nouveaux essais nucléaires qu'ils pourraient faire, tout simplement parce que, justement, jadis, ils en ont fait moins. Donc le gain marginal que peuvent faire les Chinois par essai nucléaire est très supérieur à celui des Américains. Donc à partir du moment où les Chinois développent déjà leurs armes, ça risquerait de les aider en fait à atteindre la parité avec les Américains. Ce sur quoi ont alerté donc certains spécialistes de la question. Donald Trump, lui, a avancé la nécessité de reprendre les essais nucléaires en argumentant sur le fait que, grosso modo, les Chinois et les Russes de toute façon le font déjà, des tests nucléaires. Alors ça, je ne sais pas si c'est le cas. Ça ne me surprendrait pas, mais il faut savoir que normalement, les essais nucléaires, même souterrain, ça se perçoit. Ça se perçoit notamment de manière avec des détecteurs sismiques. Alors, j'ignore s'il y a des endroits, des points du territoire russe ou chinois qui sont suffisamment éloignés des détecteurs sismiques pour que, techniquement, je n'en sais absolument rien, pour le coup, hein, donc je vous le dis, pour que ces essais puissent rester secrets. Ce dont on se souviendra, par exemple, c'est que, en revanche, quand la Corée du Nord avait fait son essai nucléaire, à partir duquel on a considéré qu'ils avaient une arme, c'était vraisemblablement un essai souterrain. Donc ça se capte, ça, normalement. Donc je pense que, alors après, c'est pas forcément parce que c'est capté par les militaires ou que c'est capté par le Pentagone que les services civils le savent, ou les sismographes civils le savent. Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça que Donald Trump l'a justifié. Et en disant, en gros, de toute façon, d'ici quelques années, les Chinois nous auront rejoints en quantité d'ogives. D'après les chiffres que j'ai vus, les estimations qu'on a, c'est que les Chinois feraient grossir leur stock d'une centaine d'ogives par an. Moi, aux dernières nouvelles, le chiffre que j'avais sur les ogives chinoises, c'était quelques centaines. Mais ça devait être 200 ogives il y a 15 ans à peu près. Ils avaient un stock qui était un peu voisin de ce qui était celui de la France. Probablement qu'ils doivent être à un chiffre beaucoup plus élevé aujourd'hui, surtout s'ils sont à 100 ogives de plus par an. Forcément, ils vont assez rapidement rejoindre les quelques milliers de têtes nucléaires qu'ont les Américains et qu'ont les Russes. Et naturellement, pour les Américains qui voient de plus en plus venir une forme de guerre conventionnelle avec la Chine à terme, l'idée de ne pas avoir, de se retrouver à parité nucléaire dans ce contexte-là, c'est un petit peu gênant. Mais de l'autre côté, on sait aussi que la guerre nucléaire est un souci pour Donald Trump, et que ça fait un moment qu'il envisage de revenir sur certains traités de désarmement. Et il faut savoir que le traité New START, qui était un traité entre les USA et la Russie sur les... ah oui, voilà, attendez, alors je retrouve juste les Chinois, j'ai retrouvé les chiffres. L'arsenal chinois, c'était environ 350 ogives en 2020 à plus de 600 en 2025. Voilà. Et donc avec 100 ogives par an, et ils ont construit 350 silos de missiles balistiques intercontinentaux. Donc forcément, ça fait une progression importante. Et donc le traité New START, qui était une limite d'armement entre les USA et la Russie, a été prolongé en 2021, mais la Russie l'avait suspendu en 2023. Par ailleurs, la Russie a déployé des armes en Biélorussie. Elle s'est retirée aussi du traité TICE. Et le problème du traité de New START, c'est qu'il est censé expirer, donc alors que le côté russe a été suspendu, mais en plus, il est censé expirer en 2026. Il n'a pas de successeur. Et donc, un des soucis de Donald Trump, c'est de mettre en place un successeur à ce traité, vraisemblablement en intégrant la Chine à l'intérieur, parce que le problème, c'est que la Chine n'était pas dedans. Et donc, ça serait assez voisin des stratégies habituelles de Donald Trump de, en gros, expliquer qu'il peut montrer les muscles uniquement dans l'espoir d'obtenir derrière une désescalade et une négociation pour obtenir de nouvelles limites. Simplement, dans le contexte de volatilité dans lequel on est, c'est peut-être pas vers ça qu'on va s'orienter. Mais clairement, le fait qu'il y ait une volonté trumpienne de renégocier, ça joue aussi sur les autres vecteurs, puisque vous savez que, j'en parlais en intro, Vladimir Poutine n'arrête pas de parler d'autres vecteurs, notamment son missile qui est capable d'avoir une, dit-il, portée illimitée avec sa propulsion, et surtout l'idée de la portée illimitée, en fait, c'est pas juste la portée illimitée, c'est l'idée que il pourrait, à partir du moment où il peut voler aussi longtemps que nécessaire, il pourrait déjouer en faisant des crochets, etc., tous les systèmes de lutte antimissile. C'est ça l'idée, que la trajectoire ne soit pas prévisible, en fait. Et il y a ça, et puis il y a aussi le fameux drone sous-marin là, dont parle Vladimir Poutine, qui en fait est une espèce de, d'après ce que j'ai vu des présentations qui sont faites, une espèce de très grosse torpille nucléaire, mais qui serait faite pour aller à de très profondément, c'est-à-dire à, semble-t-il, une profondeur supérieure à celle du kilomètre, alors que la plupart des sous-marins ne peuvent pas descendre, je crois, au-dessous d'un demi-kilomètre, parce qu'après la pression est trop importante sur la coque. Et c'est pas des sous-marins faits pour l'exploration des grands fonds. Hein. Ce sont des bâtiments de guerre qui sont faits pour naviguer sous l'eau et pas être détectés. Mais c'est pas fait pour plonger aussi profond que possible. Donc tout ça, ça nous refait basculer effectivement dans un monde dans lequel le nucléaire a une très forte importance. Et ça risque d'avoir une importance d'impact culturel, je vous dis que ça a déjà, à travers des productions hollywoodienne de ce type. Mais au-delà de ça, forcément, ça amène à... Disons que ça présente, dans un contexte où Donald Trump pourrait essayer d'en faire un outil de désarmement, l'idée principale, enfin, ce que ça renvoie surtout comme image, c'est que c'est cohérent avec un armement, une montée en puissance de l'armement global partout. Vous savez que Mark Rutte, alors je ne sais pas si les chiffres qu'il a donnés sont justes, m'a indiqué que, semble-t-il, cette année, on devrait pour la première fois dépasser la fabrication de munitions par les Russes. Alors ça m'étonne un peu, ça semble-t-il aller très vite, on a vraiment eu une montée en puissance, et ça serait surtout nourri par l'Europe. Mais c'est difficile de savoir sur quoi exactement. Par exemple, j'ai l'impression que sur les obus, on reste quand même à la traîne, c'est toutes munitions confondues. Enfin, j'ai eu du mal à comprendre exactement le détail. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une montée en puissance. Alors sans doute sur les drones, on ne monte pas en puissance aussi vite que l'ont fait les Russes, mais ça devrait rattraper aussi. De l'autre côté, vous avez la Chine qui, dans la même journée, a mis à l'eau l'équivalent de la moitié du tonnage de la marine française. Ce qui rappelle à quel point la Chine, je ne sais plus qui a employé cette expression l'autre jour, a dit que c'était la plus grande croissance d'une marine militaire de toute l'histoire, que la seule comparaison qu'on pouvait avoir, c'était la montée en puissance de l'US Navy pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on est en temps de paix depuis 15 ans. La Chine construit énormément de bâtiments. Alors, est-ce que ça dénote une agressivité chinoise? On parle beaucoup du rôle de la Chine. Moi, je pense quand même que quand on parle de la Chine, il faut se souvenir qu'il y a aussi de gros traumatismes. Souvent, on aborde le traumatisme des Chinois sous l'angle revanchard. Je ne parle pas historiquement d'impérialisme revanchard. Hein. Je parle du fait de vouloir sortir du siècle des humiliations du 19e siècle. Souvent, on parle de ça comme donc d'une volonté impérialiste de la Chine. Et je pense qu'il y en a une partiellement, mais surtout sur son espace immédiat, alentour immédiat. Mais aussi et surtout, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une, vraisemblablement une peur de la Chine. Une peur de la Chine vis-à-vis des Occidentaux. Parce que, bon, il faut aussi qu'on regarde notre histoire en face, au XIXe siècle, effectivement, c'est nous qui avons été extrêmement impérialistes contre la Chine, les Britanniques en tête, mais enfin, les Français étaient derrière eux, pour le coup, dans la guerre de l'opium. Et nous avons infligé des défaites tout à fait cinglantes à la Chine, qui n'avait pas demandé grand-chose, il faut dire, à la base. Donc nous sommes arrivés. On s'est imposé sur ses marchés, sur sa politique intérieure, moins que dans d'autres pays, mais ça a été quand même tout à fait redoutable. Et donc, quand on parle de ce traumatisme, il y a sans doute une volonté de venger l'affront côté chinois, mais c'est assorti d'une crainte de ce qu'on leur refasse la même chose. Aussi, il faut quand même se rendre compte de ça. Hein. Il y a une peur chinoise de ce que les Occidentaux, et sans doute principalement les États-Unis, un jour viennent les battre alors qu'ils essaient de récupérer Taïwan ou essaient de leur couper les approvisionnements à travers le détroit de Malacca et de leur imposer un blocus, etc. Et d'une certaine manière, les Chinois se sentent obligés de bâtir une marine absolument énorme parce que les seules victoires qu'ils ont remportées contre les Occidentaux, et c'était des victoires contre les Portugais et les Néerlandais, c'était des victoires où en général ils étaient à 10 contre 1. Donc je pense que c'est quand même important, il faut se rendre compte de ça. Les Chinois construisent une marine très importante. Alors, il ne faut pas être, faut pas avoir de complexe de supériorité européen, dans le sens où il faut se souvenir que c'est ce genre de complexe, d'une certaine manière, qui a fait sous-estimer les Japonais en leur temps. Et les Japonais ont montré aux Occidentaux, d'abord à Tsushima et ensuite à Pearl Harbor, qu'ils étaient capables de se battre et de mener des opérations navales aussi bien, voire parfois mieux, que le faisaient les Occidentaux. Donc c'est pas à exclure totalement. Maintenant, les Japonais avaient quand même une tradition maritime réelle. J'ai eu l'occasion d'en parler, je crois qu'on m'avait posé la question la semaine dernière, dans le live privé. Ou il y a deux semaines. C'est pas le cas de la Chine. La Chine, comme je l'ai dit, elle a un track record qui est très mauvais en matière maritime. Et donc, on ne peut pas forcément appliquer à la Chine ce qui a été fait par le Japon jadis. Et vous savez que je répète très souvent que la tradition militaire, c'est quelque chose de très important. Dans l'efficacité militaire effective. Hein. Encore une fois, il suffit de regarder l'Arabie Saoudite pour se rendre compte que le fait d'avoir beaucoup d'argent à mettre dans son armée ne signifie pas que vous serez extrêmement efficace. Donc c'est dans ce contexte-là aussi que ces déploiements et ces volontés de déploiement de l'arme nucléaire arrivent. Maintenant, il faut voir autre chose du côté de Donald Trump. C'est que chez Donald Trump, je pense qu'il raisonne comme ça. Il y a la certitude que de toute façon, en gros, il y aura une guerre contre la Chine. Il faudrait essayer de l'éviter. Mais que si elle finit par arriver, il faut être sûr que si c'est une guerre nucléaire, enfin, en tout cas que le risque nucléaire sera écarté. Et alors, en point de mire, on va dire, la chose la plus visible, et vraisemblablement ce qui est la stratégie véritablement de long terme de Donald Trump, c'est le déploiement du fameux Golden Dome. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici. C'est quelque chose... C'est une stratégie qui est à la fois assez innovante et intelligente. D'une certaine manière, il s'agit de faire effectivement ce qui n'a pas pu être fait à l'époque de Ronald Reagan, c'est-à-dire l'initiative des défenses stratégiques pour des raisons technologiques. Mais aujourd'hui, quand on voit l'avance qu'ont repris les États-Unis, notamment avec SpaceX, grâce à SpaceX, les États-Unis ont aujourd'hui une avance qui est très réelle en matière de de conquête spatiale, y compris contre la Chine, qui se développe, hein, qui n'est pas à la ramasse, mais qui est en retard sur ce que sont capables de faire les Américains. Ils sont en retard sur le déploiement de capacités de production, qui sont celles qui est en train de mettre en place Elon Musk, puisque vous savez que dans les années qui viennent, la nouvelle usine qui est en construction, je crois qu'il doit entrer en service à partir de l'année prochaine, d'Elon Musk doit permettre de fabriquer grosso modo un Starship par jour, ce qui est considérable, et donc c'est une chose que j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer, mais vraisemblablement dans l'espace, c'est l'endroit où les États-Unis peuvent continuer de faire la course en tête. Vous savez, c'est une chose que j'avais mentionné déjà, c'est que y a un chiffre qui circule beaucoup, qui semble repris de manière sérieuse et donc qui me paraît pas totalement incohérent, surtout quand on voit ce qu'ils font, c'est qu'aujourd'hui la construction navale chinoise, les capacités de construction navale chinoise seraient 200 fois plus supérieures à celles des États-Unis. Je sais pas si le chiffre est exact, mais même si c'est quelques dizaines de fois, forcément, si vous devez rentrer dans une guerre industrielle sur les mers, ça met les États-Unis dans une très mauvaise posture. Le truc, c'est que vraisemblablement, on est déjà passé à autre chose. Et on est en train de passer à autre chose. Et ça, c'est ma conviction sur la guerre qui vient. C'est que les États-Unis partent sur la guerre spatiale. C'est-à-dire c'est la thalassocratie, finalement, est la première à investir. C'est elle qui l'investit en tête, en tout cas massivement, le champ spatial sur le plan militaire, notamment avec la création de la Space Force. On n'est pas très loin derrière, hein, en France aussi, on a créé un truc comme ça, mais c'était le premier Donald Trump qui avait mis ça en place. Et le truc, c'est que quand vous regardez les capacités américaines, on est dans quelque chose de beaucoup plus cohérent et de beaucoup plus... réaliste, en tout cas proche de la réalisation, que ce qui avait pu exister dans les années 80, justement, dans les années Reagan. C'est-à-dire que le Golden Dome, tel qu'il est pensé aujourd'hui, avec l'idée de déployer des masses de satellites, d'interception, etc., c'est pas déconnant quand vous voyez les capacités de SpaceX à déployer des Starlink, qui est sans commune mesure avec ce qu'on pouvait faire dans les années 80. Mais aussi, si vous avez les États-Unis qui sont capables de développer rapidement une flotte d'engins spatiaux, comme les Starship, qui seraient militarisables, parce que les engins spatiaux militarisables, vous pouvez en faire plein de trucs après, hein. Vous pouvez, par exemple, vous en servir pour faire ce que fait grosso modo l'Oreshnik de Poutine, mais sans qu'on vous voie lancer de missile. C'est-à-dire que vous maintenez en orbite... théoriquement des vaisseaux de ce genre-là qui sont dotés d'ogives, qui peuvent être juste des ogives cinétiques, hein, c'est-à-dire qui n'ont même pas besoin d'être nucléaires, mais qui peuvent être nucléaires éventuellement aussi, et qui se contentent de les lâcher et par gravité de les laisser tomber sur des choses au sol qui peuvent être des cibles, ça peut être aussi des cibles maritimes, voilà. Et ça peut être des ports, ça peut être des choses comme ça. Et à partir de là, à partir du moment où vous obtenez une masse suffisante de ça, ben, d'une certaine manière, c'est un petit peu comme... ça peut être comparable, si vous voulez, comme transformation à ce qu'a été l'apparition de l'aviation, et notamment de l'aéronaval. Il faut se souvenir que pendant la Seconde Guerre mondiale... c'est assez amusant d'ailleurs. Les Japonais... les grands rois, on va dire, de la mer depuis le début du 19e siècle, c'était les gros cuirassés. Les gros cuirassés avec des très gros canons. C'était le modèle Dreadnought, vous savez, qui a été construit en 1905, ou lancé en 1905, par les Britanniques, ce qui avait lancé une importante course aux armements. Et l'idée, c'était speed is protection, c'est-à-dire que c'était des navires qui étaient capables d'aller très vite, qui n'avaient que des très gros calibres. Et l'idée, c'était de pouvoir frapper et disparaître rapidement, ou en tout cas de se déplacer assez vite pour ne pas pouvoir être touché par les adversaires. Et ça, c'était devenu vraiment le roi des mers. Ça avait été toute la course aux armements entre l'Empire britannique et l'Empire allemand à la veille de la Grande Guerre. Ça avait été ça. Et les cuirassés sont devenus inefficaces et ne servent plus... ont perdu quasiment toute efficacité. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que vous avez eu deux grands exemples qui sont très célèbres, qui sont l'exemple du Bismarck allemand et du Yamato japonais. qui étaient des cuirassés superbes, alors qu'ils font la joie des modélistes, mais qui en fait n'ont vraiment pratiquement servi à rien dans le conflit, parce que et qui ont tous les deux été détruits, coulés par précisément des avions, par des frappes aériennes, ils ont été torpillés, bombardés par des opérations aéronavales. Et il y a eu d'autres trucs comme ça. Il y a aussi toute la flotte italienne de Tarente qui avait été également détruite dans ses rades par une opération aéronavale britannique. Et ce qui est très paradoxal, c'est que les Japonais sont ceux qui ont lancé les premières très grandes opérations aéronavales qui ont mené l'essentiel, une grande partie de leurs opérations de 1941-42 sont des opérations aéronavales tout à fait réussies et de très très grande envergure, avec plusieurs porte-avions à chaque fois, etc. Mais ils ont continué malgré tout à considérer que les navires principaux c'était les cuirassés. Alors qu'il faut se souvenir, c'est connu que si Pearl Harbor n'a pas été si dramatique que ça pour la marine américaine, c'est notamment parce que les porte-avions n'étaient pas là. Les porte-avions n'étaient pas à Pearl Harbor, donc il n'y a eu aucun porte-avions détruit. Et donc les Américains ont pu tout de suite réutiliser leurs porte-avions pour contrer les Japonais. Et donc pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, le déploiement de l'aéronaval a rendu obsolète ce qui était la marine traditionnelle, en fait, parce que le cuirassé, c'était l'héritier des grands navires de ligne de jadis, c'est-à-dire des gros navires avec des gros canons qui tapent très fort. Voilà. Et celui qui a les plus gros navires avec les plus gros canons a forcément un avantage. Voilà. Bon, il faut aussi qu'il soit rapide, mais disons, voilà. Et l'apparition des avions a tout changé, et depuis la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont régné sur toutes les mers du monde avec leurs énormes porte-avions. C'est ça le gros truc. Et aujourd'hui, vous avez... Alors les Américains continuent à sortir d'énormes porte-avions à échelle régulière pour maintenir le parc, qui est le plus important du monde. Mais ceux qui sont en train d'essayer de les rattraper là-dessus, c'est les Chinois, qui en ont mis un en mer il y a cette semaine, et qui veulent en avoir 6. Alors les Américains en ont 12, je crois, des super porte-avions. Les Chinois veulent en avoir 6 équivalents d'ici, je crois que c'est d'ici 2035, l'objectif. Mais peut-être qu'ils vont accélérer là-dessus. Mais il n'est pas impossible qu'en faisant ça, les Chinois soient déjà en train de commettre l'erreur de, pour le coup, de mener eux la guerre d'avant sur le plan naval. C'est-à-dire que c'est pas impossible. C'est une intuition que j'ai là-dessus, donc je vous la livre, mais ça me paraît important. Je pense véritablement que l'aspect militaire va se déplacer plutôt vers le spatial au détriment du maritime, et que de plus en plus la thalassocratie devra contrôler en priorité le spatial, il y a accessoirement les mers, mais qu'en grosso modo, celui qui contrôle l'espace au-dessus est celui qui est le plus fort. Et donc si les Chinois arrivent à hausser leur niveau de jeu aéronaval au niveau des Américains, les Américains se débrouilleront pour les surplomber dans l'espace. Et a priori, dans cette course-là, malgré tout, j'avais déjà donné quelques chiffres il y a quelques temps, les Américains sont clairement en avance sur les Chinois. Voilà. Les Chinois, encore une fois, ne sont pas à la ramasse, mais ils sont en retard, voilà, tout simplement, sur les Américains et notamment sur SpaceX. Et donc, dans le cadre notamment de ce déploiement de l'arme spatiale, il y aurait le déploiement du Golden Dome. Seulement d'ici que le Golden Dome soit opérationnel, et il y a l'idée de Donald Trump que le truc doit être opérationnel quand il partira, a priori, s'il ne cesse pas de faire troisième mandat, donc d'ici 3 ans, ça paraît un peu court pour un projet de cette ampleur-là, même si, encore une fois, la technologie de lancement et de déploiement sans doute est là, mais enfin, après, il faut que ça fonctionne. Mais bon, on sait que les Américains ont aussi tout un tas d'avances en R&D de choses qu'ils n'ont pas forcément exploitées jusqu'au bout, donc ils doivent avoir des choses qui fonctionnent et qui sont utilisables. De plus en plus, on voit des déploiements d'armes laser qui existent aussi. Alors arrêter des ogives comme ça, un laser, ça risque d'être compliqué, parce que le laser, ça a quand même une portée limitée. Mais voilà, c'est pas impossible que ça fonctionne avec d'autres types d'accessoires aussi, les canons électriques, des choses comme ça dont on a pu parler. et dont il a été question notamment pour arrêter des missiles ou des avions. Hein, parce que l'idée du canon électrique, c'est que vous, vous tiriez des projectiles qui peuvent... C'est comme un canon, mais qui peut tirer à 200 ou 300 km. Et donc avec ça, vous pouvez abattre des avions ou des trucs comme ça, quoi. Je vais avoir des ogives qui, par exemple, se vaporisent en espèce de dessin d'aiguillons, de trucs explosifs, etc. Enfin, vous trouvez des vidéos là-dessus de projets qui existaient. Et donc, c'est le genre de choses qui peuvent continuer à être déployées aussi. Donc, ça pour dire que l'arme nucléaire n'est pas forcément quelque chose qui reste véritablement qui est central ou en tout cas qui sera utilisé. Moi, comme je vous ai déjà dit, alors. L'historionomie donne vraiment pas vraiment de réponse là-dessus, parce que sur le point nucléaire en tout cas, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, le nucléaire pour le coup c'est tout à fait récent, donc on n'a pas d'autres exemples. Le seul exemple qu'on a de guerre nucléaire, vous savez que j'ai déjà parlé de ça en ces termes, c'est la guerre froide. Et j'en tire un enseignement, mais qui est limité puisqu'il est sur ce seul exemple-là. Qui est que la guerre nucléaire, c'est une guerre dans laquelle on ne se tape pas, justement. C'est-à-dire, ou en tout cas, dans laquelle on ne tire pas de missiles nucléaires. C'est-à-dire que les missiles nucléaires servent à empêcher les missiles nucléaires. Voilà. Quand une guerre d'artillerie, comme a été la Première Guerre mondiale pendant un bon moment, c'est une guerre dans laquelle vous tirez sur l'artillerie de l'autre avec votre artillerie, vous faites des gros duels d'artillerie, vous massacrez des montagnes de gens avec votre artillerie, mais vous tirez, d'accord ? Et parfois vous tirez très loin, hein, jusqu'en direction de Paris, comme essayaient de le faire les Allemands avec leurs plus gros canons. Quand c'est sur l'arme nucléaire, c'est en fait le même principe, sauf que vous tirez même pas, parce que vous dissuadez l'autre de tirer avec vos canons. C'est comme si en 1915, on avait arrêté de se tirer dessus à l'artillerie de peur que l'autre nous tire dessus. Hein. C'est un peu ça le principe de la guerre froide. Simplement, encore une fois, la guerre froide, c'était une guerre de position et on est dans une guerre de mouvement avec l'idée. Et donc là-dessus, je ne sais pas si je peux vous... Ah non, j'avais enlevé les images, je crois que je ne les ai pas. Mais je vous renvoie à l'émission que j'avais fait sur l'éventuelle progression, les différents scénarios de progression russe en Europe. Même dans l'hypothèse de la guerre de mouvement que j'ai déjà abordée, je n'ai jamais mentionné, en tout cas vu comme... plausible, l'utilisation d'armes nucléaires. Je vous ai déjà expliqué que, selon moi, l'arme nucléaire, ça servait surtout à un État sur le point de s'effondrer, éventuellement à envoyer un signal pour dire « Maintenant, vous arrêtez vos forces conventionnelles. » Mais donc, le dernier exemple qu'on avait, c'était la guerre froide, et en matière de guerre nucléaire. Or, il y a beaucoup de leçons, j'en ai déjà parlé, mais c'est important de revenir dessus dans ce contexte où l'arme nucléaire revient. Il y a beaucoup de leçons qu'on croyait avoir appris de la guerre froide qu'on a désappris depuis le début de la guerre avec la Russie, notamment sur tout ce qui est frappe sur le territoire d'un état nucléaire, hein, on l'a vu avec la Russie, notamment toutes les frappes sur ses raffineries. Avec toutes ces raffineries qui ont sauté, la Russie n'a toujours pas utilisé d'armes nucléaires en riposte. Très honnêtement, vous auriez dit un truc comme ça dans les années 80, je pense qu'on aurait pensé que c'était de la science-fiction. L'idée que vous puissiez taper sur le territoire de l'Union soviétique, comme ça, avec des drones ou avec des missiles, sans que l'Union soviétique ne riposte de manière nucléaire. Ça aurait été perçu comme totalement absurde. Or, on voit aujourd'hui qu'il est démontré que non. Alors, il faut se poser un petit peu la question, pourquoi ça ? Et ça me ramène un petit peu au film dont je vous parlais, The Day After, et au nouveau film là, qui est sorti, House of Dynamite. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans ? C'est que, pour le coup, pour ce qui est de la guerre nucléaire, The Day After était beaucoup plus réaliste, on va dire, que House of Dynamite. House of Dynamite, le pitch, ça va pas vous divulgâcher, hein, c'est tout le début, mais le pitch, c'est, tout d'un coup, il y a un missile qui est tiré, sans qu'on sache vraiment de qui, sur le territoire américain. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Quel est le type de riposte ? Voilà quelles sont les questions qui se posent. On essaie de l'intercepter, tout ça. Bon. Donc ça change beaucoup sur la décision, parce que vous avez le moment où vous essayez d'intercepter, ou si vous arrivez à l'intercepter, ben forcément, ça limite le problème, donc vous êtes moins dans l'urgence pour faire quelque chose, alors si vous avez une ville qui est détruite, ben c'est pas pareil, etc. Le truc, c'est que, dans l'hypothèse d'une guerre nucléaire, il n'y a pas vraiment de scénario comme ça, où il y a quelqu'un qui lance un missile sur le territoire des États-Unis ou sur le territoire russe. Pourquoi ? Parce que l'idée d'une guerre nucléaire normalement, c'est que vous partez dans des frappes massives. L'idée, c'est de balancer tout d'un coup, ou à peu près, pour vous assurer que l'autre ne sera pas capable de riposter. C'est ça l'idée de la guerre nucléaire, et qui a avec la destruction mutuelle assurée. C'est-à-dire qu'il y avait deux soucis pour les grandes puissances nucléaires. Un, avoir un arsenal de première frappe, qui vous sert éventuellement à essayer d'avoir l'initiative nucléaire, si nécessaire, et de pouvoir gagner. Et ensuite, il y a les armes de deuxième frappe, qui sont là pour vous garantir d'une éventuelle riposte de l'autre, ou d'une première frappe de l'autre, selon l'angle sous lequel vous le voyez, avec l'idée que, de toute façon, même si vous en mettez une, vous pourrez lui en mettre une autre derrière. Donc c'est ça l'idée. Mais dans ce cas-là, même l'idée de première frappe, ça ne peut être conduit, et ça n'a un sens qu'avec la surprise. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez le premier à tirer suffisamment massivement pour éviter, pour limiter au maximum les capacités de deuxième frappe de l'autre. L'idée étant que, parce que ça fait partie de toute la réflexion du poker, de la partie de poker qui est un peu la guerre nucléaire, que si vous arrivez à balancer toutes vos armes de première frappe, que vous arrivez à détruire toutes les armes de première frappe de l'autre en face, un certain nombre de ses centres de commandement, etc. Éventuellement, il lui restera ses armes de deuxième frappe, mais comme il sait que dans ce cas-là, vous allez à nouveau le frapper s'il fait ça, sa frappe de vengeance, il va rien faire et il va se coucher. En fait, c'est ça, grosso modo, l'idée. Donc même avec, dans ce contexte-là, de deuxième frappe, il y a quand même toujours une idée de dialogue nucléaire véritable dans les frappes. Bon. Mais le sous-entendu qu'il y a dans cette vision des choses, c'était que, et c'est ce que vous voyez bien dans les scénarios comme The Day After, mais même à la limite, moi, c'est ce qu'on a toujours entendu dans le cadre de la guerre nucléaire, c'était cette idée que il y avait le risque, en gros, que ça pète du jour au lendemain. Parce que il y avait l'idée de panique nucléaire. C'est-à-dire que il y avait l'idée pendant la guerre froide, et moi j'ai grandi ensuite, même après la guerre froide, avec cette idée qui était héritée de la guerre froide, que s'il y avait une guerre entre deux puissances nucléaires, ça risquait, mais en quelques heures en fait, dès le premier échange de tir, ça risquait de déraper vers la guerre nucléaire. Pourquoi ? Parce que, à partir du moment où deux puissances nucléaires commenceraient à se taper dessus, il devenait vraisemblable pour chacune que l'autre allait utiliser contre elle son arsenal nucléaire, ou risquait de se sentir suffisamment menacée, ou craindrait qu'elle-même utilise le sien et donc l'utiliserait préventivement, etc. Et donc, ça nourrissait cette idée que par réaction en chaîne de panique, très rapidement, on irait de deux soldats, un soldat soviétique et un soldat américain qui se tirent dessus, à guerre nucléaire. Et c'est vraiment le truc qu'il y a. C'est-à-dire, si vous regardez The Day After, au début, la façon dont c'est mentionné, vous comprenez que ça se passe en quelques heures. C'est-à-dire, vous avez des navires qui commencent à se tirer dessus, et très rapidement, on arrive à l'échange nucléaire. Et paradoxalement, cette idée que l'escalade serait extrêmement rapide en cas de guerre nucléaire, entre les deux puissances nucléaires, cette idée-là faisait qu'il était inenvisageable d'utiliser des armes nucléaires. Parce que, pour le coup, ça vous amenait à la destruction mutuelle assurée. Mais non seulement qu'il était inenvisageable d'utiliser des armes nucléaires, mais il était inenvisageable aussi de se taper dessus en tant que puissance nucléaire. C'était totalement inenvisageable. Parce que si vous le faisiez, ça risquait de déraper la guerre nucléaire. Et très honnêtement, tout ce qu'on a vu depuis le début de la guerre en Ukraine, je pense que ça aurait été inimaginable pour beaucoup de stratèges pendant la guerre froide. C'est-à-dire l'idée que les États-Unis explicitement puissent fournir des armements, des missiles qui taperaient directement sur le territoire soviétique et qui taperaient effectivement. Il y a eu des fournitures de... Mais bon, déjà, les fournitures d'armement aux talibans et aux Mujahideen pendant la guerre d'Afghanistan contre les soviétiques. Les soviétiques savaient très bien d'où les missiles venaient, qui aidaient à abattre leurs hélicoptères, etc. Mais ça restait des opérations comme on avait vu en fait pendant toute la guerre froide. Et c'était sur le territoire. En fait, c'était une bataille en champ clos d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'était arrivé en Corée, c'était arrivé au Vietnam, c'était arrivé donc ensuite en Afghanistan, que vous aviez un des deux grands qui allait mener sa guerre sur ce territoire-là, vous aviez l'autre qui allait financer des gens, soutenir des gens, armer des gens, parfois s'engager directement dans le conflit d'ailleurs, puisque vous avez des pilotes russes qui ont assisté et qui ont combattu pendant la guerre de Corée, des pilotes soviétiques, contre les Américains. Mais dans les deux cas, vous aviez le territoire des puissances nucléaires qui était exclu. Il ne s'agissait pas d'utiliser ces armements pour taper sur le territoire de la puissance nucléaire. Tout ceci a changé très vite, dès le début de la guerre d'Ukraine. Et ce qu'on voit maintenant depuis des années, c'est une puissance nucléaire, la Russie, qui se bat en Ukraine, avec en face une puissance nucléaire, les États-Unis, qui aident les Ukrainiens à se battre contre la Russie, mais qui vraisemblablement leur donne du renseignement aussi pour aller taper directement sur le territoire russe et pas uniquement en Ukraine. Et cela de plus en plus, hein, vraisemblablement que ça a accru vu l'augmentation des frappes qui a eu un encouragement américain aux Ukrainiens, et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais clairement il y a eu un changement de posture de Donald Trump là-dessus à partir du mois de juillet dernier, et de sa rencontre avec Zelensky, où il a dit pourquoi vous tapez pas le territoire russe. Et donc nous sommes dans une situation qui est totalement différente. C'est-à-dire on a une puissance nucléaire qui encourage une puissance en guerre avec une autre puissance nucléaire à taper sur le territoire de cette puissance nucléaire. Et ça ne donne rien. Ça ne donne pas d'emploi de l'arme nucléaire. Donc ça, et ça je vous en avais parlé dès le début, si vous vous souvenez des plus anciennes émissions que j'ai fait, je crois que j'en avais parlé déjà dans les semaines qui avaient suivi l'invasion de l'Ukraine. J'avais dit que pour moi, il n'y aurait pas de guerre nucléaire, parce que la réalité c'était, enfin la façon dont je concevais les choses, c'est que tout le territoire qui n'était pas directement sanctuarisé par l'arme nucléaire devenait un territoire de guerre conventionnelle, y compris entre puissances nucléaires. Eh bien, j'étais pas encore allé aussi loin que la réalité, puisque la réalité, c'est que même sur le territoire de puissance nucléaire, comme la Russie, vous pouvez taper, ça n'entraîne pas de riposte nucléaire non plus. Donc ça veut dire qu'en fait, petit à petit, et c'est pour ça que je dis, on a désappris, c'est pas juste on a désappris en ce qui concerne les théoriciens, les stratèges, ceux qui écrivent et qui réfléchissent sur la guerre nucléaire, c'est on a désappris aussi collectivement dans et profondément, je veux dire, dans les sociétés concernées, enfin je crois, en tout cas au niveau des décideurs, on a compris que se taper dessus même directement, c'était pas forcément la guerre nucléaire. Et donc ça rend à nouveau plausible les affrontements conventionnels. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'une agression russe contre l'OTAN, etc. Sous l'Union soviétique, je veux dire, personne ne parlait de... Enfin, il y avait des scénarios comme ça, mais vous n'aviez pas la majorité des médias, sérieusement, qui venaient expliquer que, vraisemblablement, d'ici 3 ans, les soviétiques allaient envahir l'Allemagne de l'Ouest. Il y avait des gens qui croyaient. Il y avait la peur de la menace russe, etc. Mais vous n'aviez pas tous les services de renseignement qui vous disaient « il faut s'attendre d'ici 3 ans à ce que les soviétiques nous envahissent ». Vous aviez l'idée qu'il fallait se préparer à ça toujours, mais l'idée que ça allait commencer, non. C'était compensé de l'autre côté par l'idée que s'il y avait une guerre, ça serait une guerre nucléaire et que donc c'était impensable d'une certaine manière. Donc il fallait être prêt malgré tout, il fallait avoir tout l'échelon de dissuasion. Mais, alors, ça a peut-être aussi disparu, parce que comme on a laissé tomber une bonne partie de la dissuasion conventionnelle, en Europe, avec les dividendes de la paix, en se reposant sur l'arme nucléaire, on a oublié que, du coup, ça rendait possible les attaques conventionnelles. Mais, ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des guerres entre puissances nucléaires. Et encore une fois, vous allez jeter un œil à l'Inde et au Pakistan, qui se sont quand même tapés dessus assez fortement pendant plusieurs jours. Alors ça finit par s'arrêter. Mais il n'a pas été question d'emploi d'armes nucléaires. C'était en filigrane, parce que tout le monde se disait c'est des puissances nucléaires, ça risque de se taper, mais ils se sont bombardés, il n'y a pas eu de frappe nucléaire. Donc, est-ce que, et c'est un petit peu la question que je laisserai en suspens là-dessus, malgré tout, sur le fond, est-ce que le fait que tout ceci ne donne pas lieu à l'emploi d'armes nucléaires, paradoxalement, peut rendre à nouveau plus vraisemblable l'emploi d'armes nucléaires. Dans le sens où, si vous considérez, comme je viens de le faire devant vous, que le fait qu'on ait conscience, ou qu'on ait conscience, qu'on n'ait plus conscience, que le déclenchement de la guerre entre deux puissances nucléaires amène forcément une guerre nucléaire totale, et donc ça supprime l'attaque conventionnelle. Inversement, le fait que la guerre conventionnelle soit réapparue sous parapluie nucléaire d'une certaine manière, et qu'on ait vu qu'en fait, il n'y avait pas une espèce d'escalade comme ça, mais qu'éventuellement, il y avait une escalade très très lente avec des moyens de plus en plus accumulés depuis 3 ans, des frappes de plus en plus loin sur le territoire russe, etc., sans qu'il y ait d'armes nucléaires. Est-ce que ça, on va dire, ça n'aplatit pas finalement la courbe d'escalade et ça ne laisse pas un espace dans lequel on peut échanger des tirs d'armes nucléaires sans aller jusqu'à la guerre nucléaire? Ça, à mon avis, c'est la grande question qui surgit. C'est-à-dire qu'il y a toujours un tabou nucléaire, clairement. Il est hors de question de s'en servir. Mais est-ce que, et je reviens sur ce scénario justement de The House of Dynamite, qui est qu'en gros, vous avez un missile qui part. Il n'y a pas que là-dedans, d'ailleurs. C'est dans le champ du loup aussi. Il y a une histoire d'un missile, une attaque par un missile qui paraît. Mais est-ce que c'est véritablement invraisemblable que quelqu'un essaie de faire ça? À une époque, avant l'invasion de l'Ukraine, il y avait des gens qui disaient, un type qui s'appelait Piontowski, je crois, que Poutine pourrait essayer de faire une frappe nucléaire à titre de... c'était l'idée de la théorie d'escalade-désescalade. C'est-à-dire, je balance une arme nucléaire pour ensuite obliger les gens de négocier à mes termes, mais en désescaladant. C'est-à-dire, en n'allant pas jusqu'à la guerre nucléaire totale contre les autres. Eh bien, le fait, selon moi, que ce soit affaibli la certitude que, en gros, s'il y a une bombe nucléaire qui pète, les gens, par panique, balanceront tout ce qu'ils ont, en se disant, ça y est, on est sur une nucléaire, maintenant, il faut tout balancer. Ce qui, vraisemblablement, était l'idée sous-jacente. Et d'une certaine manière, j'irai plus loin. C'était véritablement l'idée collective, la certitude, la croyance collective commune qu'on irait forcément vers une guerre nucléaire totale. À partir du moment où il n'y a pas de guerre nucléaire totale, si vous utilisez du nucléaire, est-ce que vous ne pouvez pas essayer d'utiliser un peu du nucléaire? Est-ce que vous n'arrivez pas à une espèce de banalisation comme ça? C'est un risque qui existe. C'est un risque qui existe. Et il n'est pas impossible que dans ce que je vous ai dit souvent, c'est-à-dire qu'à mon avis, il n'y aurait pas de guerre nucléaire, ou il n'y aurait pas du tout d'emploi d'armes nucléaires, par contre, c'est peut-être plus d'actualité. Cependant, le corollaire de ça que je vous dis, c'est qu'il y aura peut-être des emplois d'armes nucléaires, mais sans guerre nucléaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible qu'il y ait effectivement des frappes qui se tiennent, sans qu'il y ait d'escalade jusqu'au bout. Jusqu'à la guerre nucléaire d'extermination. Mais bon, ça, c'est encore un doute. La question, ce serait où? C'est pas impossible qu'il y ait des frappes nucléaires. Je réfléchis en vous parlant là un petit peu. J'avais pas préparé l'émission jusque-là. Enfin, jusqu'à cette question-là. Je suis le fil de ma pensée. Frappe nucléaire sur les territoires des pays des puissances nucléaires, j'ai du mal à y croire, mais d'une certaine manière, le film, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il pose la question de savoir est-ce que ça entraînerait forcément une riposte, notamment si c'est limité. Est-ce que les gens préfèrent prendre une perte plutôt que de risquer le suicide? Je crois que quelqu'un, c'est une formule, c'est la capitulation ou le suicide, en gros, hein, le choix qui vous est laissé. C'est pas impossible. Enfin, disons que ça réouvre la question d'une certaine manière et que la décision de Donald Trump de reprendre les essais nucléaires, même si elle change pas grand chose en réalité, hein, parce que cette reprise des essais nucléaires, on a déjà connu ça par le passé, ça réouvre un espace de discussion sur cette question de la guerre nucléaire et qui ouvre d'autres questions, hein, notamment le fait, si vous vous retrouvez en guerre nucléaire avec un pays, est-ce que si vous ripostez, vous ne ripostez que contre ce pays-là? Ou bien est-ce que, comme vous risquez dans l'échange nucléaire de subir des dommages catastrophiques, vous n'allez pas également cibler vos autres ennemis, même s'ils sont pour rien et qu'ils n'ont rien fait pour l'instant, ne serait-ce qu'à titre préventif, pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous êtes totalement détruit, alors qu'eux seront restés intacts parce qu'ils auront été en dehors du conflit. C'est une question qui a posé aussi, elle est posée dans ce film, un petit peu accessoirement en filigrane, mais ça vaut le coup de le voir pour ça. Et donc voilà, le retour de la question nucléaire qui arrive selon moi. Je continue de penser, c'est peut-être un vœu pieux, que la question sera effectivement réglée par le haut d'une certaine manière. Alors le haut, c'est pas un traité de désarmement et bisounours, etc., mais c'est par le haut technologique, avec en fait le dépassement de ça, le dépassement de ce type de vecteur, et notamment à travers des systèmes comme le bouclier spatial. Ça serait pas la première fois, hein. Vous avez des alternances comme ça dans l'histoire, ceux où c'est les moyens de défense qui tiennent l'eau du pavé et d'autres où c'est les moyens d'attaque. L'arme nucléaire, d'une certaine manière, c'était plutôt un moyen de destruction, donc d'attaque, qui se sont neutralisés dans le cadre de la dissuasion. Mais on peut avoir des systèmes de forteresses qui se construisent, de forteresses de défense active, comme le Golden Dome, on peut se retrouver dans un monde de demain où les Américains auraient leur Golden Dome, je sais pas, les Indiens auraient leur, etc., et où la menace nucléaire serait écartée par ça. Mais à ce moment-là, ça ne voudrait pas dire qu'il n'y aurait pas de guerre conventionnelle, puisque vous aurez juste des gens qui sont à l'abri des missiles, mais qui peuvent quand même se taper dessus avec tout le reste. Donc, voilà. Mais, alors, encore une fois, je ne donne pas de réponse finie là-dessus. Simplement, je pense que, dans le cadre de cette chaîne, c'est intéressant de réfléchir à cette question-là, cette question nucléaire, cette question de la guerre nucléaire potentielle. Et donc, j'avais envie de faire cette émission là-dessus ce soir. On va peut-être continuer à en discuter si on a quelques questions. Attendez, je vais revoir est-ce que j'arrive à voir les messages envoyés par notre ami Iruma ici. Oui. Alors je vais commencer par je terminerai par la question commentaire, parce que c'est pas forcément dans le sujet. Merci à Denis G4 pour son don. Matt Broshiker, merci pour le don. Sur LCI, l'ancien ambassadeur Gérard Haro a dit qu'il était convaincu que l'OTAN ne déclencherait pas l'article 5 en cas d'attaque russe sur les pays baltes. Vous partagez son opinion? Non, je ne partage pas son opinion parce que... enfin, tout dépend. Tout dépend de ce qu'il entend par là. Parce que l'article 5, il peut être bloqué par certains membres qui ne veulent pas bouger. L'article 5, il indique aussi que normalement tous les pays membres doivent mettre en œuvre tous les moyens possibles de leur côté pour prêter assistance à l'État qui est attaqué. Mais il n'y a pas de détail, si vous voulez, et il n'y a pas de sanction d'une certaine manière. C'est-à-dire que si jamais il y a un pays qui décide d'envoyer ses pensées et prières, ben les autres ne vont pas lui taper dessus pour qu'il participe, si vous voulez. Ça peut discréditer sa parole, mais s'il y en a plusieurs qui le font à la fois... Donc je ne sais pas exactement comment Gérard Haro dit ça. Est-ce que Gérard Haro dit « les États-Unis ne viendront pas » Est-ce que Gérard Haro dit « il y a des pays qui bloqueront le mouvement » peut-être comme la Hongrie ou comme la Turquie. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a un doute. Il y a un doute sur l'unité de l'OTAN en cas d'attaque de ce genre-là. Et ce doute... Il existe, à mon avis, notamment à cause de la menace de guerre nucléaire, justement. Et dans ce cas-là, c'est intéressant. Parce que si on reste dans un logiciel guerre froide qui pense qu'une guerre entre l'OTAN et la Russie, c'est forcément un truc qui part très vite vers la destruction mutuelle nucléaire, alors effectivement, vous pouvez vous dire que vous aurez tout un tas de pays de l'OTAN qui préféreraient ne pas se défendre et dire en gros, on ne s'engage pas là-dedans parce qu'on sait où ça va, et franchement, les États baltes ne valent pas la guerre nucléaire. Ok, bon. Maintenant, ce que j'ai expliqué, ce sur quoi en tout cas j'ai essayé de réfléchir pendant cette émission, tente à montrer plutôt qu'on a désappris tout ça, et qu'on a le sentiment maintenant qu'en réalité, un affrontement OTAN en Russie n'amène pas nécessairement à la guerre nucléaire. Et donc ça, je pense que c'est un élément qui vient à plutôt à l'appui de la solidarité otanienne. Dans le sens où, à partir du moment où les membres de l'OTAN ne se sentent pas directement menacés par une guerre nucléaire, parce qu'on n'en est pas encore là et qu'on n'y ira pas forcément, même en cas d'affrontement avec la Russie conventionnelle, eh ben, je pense que vous aurez beaucoup plus de pays de l'OTAN qui seront prompts à soutenir les États baltes plutôt qu'à décider de renoncer parce qu'ils auront moins peur de l'extermination nucléaire. Je pense véritablement que ça jouera. Et que le chantage nucléaire, qui sera en fait ce que feraient les Russes dans ce cas-là, en essayant de jouer sur cette peur du nucléaire, qui semble exister, hein, quand vous lisez certains théoriciens russes, conseillers de Poutine, vous voyez qu'ils ont cette idée-là, que les Européens, on peut leur faire peur, etc. Moi, je suis pas sûr. Je pense que l'article 5 serait déclenché. La question, c'est... Normalement, pour déclencher l'article 5, il faut qu'il y ait une réunion de l'OTAN, il faut que les membres unanimement s'accordent à ça. Mais encore une fois, ça c'est la version théorique. Mais je pense que s'il y avait les États baltes qui étaient attaqués par la Russie, que vous aviez les États baltes qui invoquaient l'article 5 de l'OTAN, et que vous aviez des pays qui s'y opposaient et qui empêchaient d'une certaine manière l'organisation dans son ensemble d'y recourir, de valider l'article 5, de valider l'appel. Je pense que vous auriez une scission à l'intérieur de l'OTAN avec tout un tas de pays qui veulent prêter assistance à celui qui demande l'article 5 et qui diront bah nous, on veut honorer l'article 5, donc on l'honore. Donc je pense que le scénario le plus vraisemblable, peut-être, ce serait qu'il y ait une scission à l'intérieur de l'OTAN avec des défections, tout simplement, mais que l'article 5 serait activé. Moi, c'est ça que je pense. Alors je comprends pas ce que c'est. Hiruma pub pendant le live, possibilité de faire quelque chose, c'est-à-dire quoi? De supprimer les pubs? On peut supprimer les pubs, faut juste faire plus de dons pour compenser la perte des pubs. Dev, quels sont les prochains pays dans le monde qui devraient devenir démocratie après leur révolution nationale, leur parlementarisation? Merci. Ben, a priori, la Russie, puisqu'ils sont quand même en phase d'impérialisme revancheur, donc ils sont déjà sur la fin. Le problème, c'est que ceux qui sont au bord de devenir des vraies démocraties achevées, c'est ceux qui sont en phase d'impérialisme revancheur, normalement, et dont l'impérialisme revancheur va se terminer bientôt. Les pays qui sont en fait d'ancien régime, a priori, ils ont leur impérialisme revancheur devant eux. Donc, je crains qu'il y en ait un en Iran, je crains qu'il y en ait un en Chine aussi, après la chute du régime. Donc, des démocraties directement, ça serait compliqué. Pareil, le Venezuela, si Maduro tombe, je pense qu'on va partir dans une phase de assez chaotique. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le Rwanda, selon moi, est en phase d'impérialisme revanchard sous Kagame. Et derrière, devrait devenir une vraie démocratie parlementaire. La Serbie, a priori, est un impérialisme revanchard avec Vucic, qui est un impérialisme revanchard contraint en raison du... Mais après ça, devrait devenir une démocratie parlementaire parfaitement fonctionnelle. Voilà. Voilà, voilà. Diego, merci pour le don. Bonsoir Philippe, peut-il nous faire son top 3 des rois de France, hors Louis XIV et Louis IX? Et pourquoi? Merci, je vote. Compliqué. Compliqué. Au-dedans, il y aura... je pense qu'il y aura Louis XI. L'universel araignée. C'est un personnage assez classieux. Le mec a beaucoup, beaucoup utilisé... la ruse, la manipulation, tout ça pour arriver à ses fins, alors qu'il n'était pas toujours en position de force. Et donc ça force quand même le respect. Qui d'autre? Philippe Auguste, j'aime bien parce que j'aime bien Philippe Auguste. Bouvines, tout ça. Battre à la fois les Anglais et les Allemands, ça fait toujours plaisir. Et puis s'il faut en trouver un troisième. Est-ce que j'aurais mis Louis XIV d'ailleurs dans mon top préféré? Je sais pas. Peut-être que si, quand même. Pas Louis XV. J'aime pas Louis XV. Qui c'est qu'on peut prendre? T'as Henri II. Il a repris Calais aux Anglais. Voilà, on met celui-là. Alors, et puis il a eu une mort un peu dégueulasse, alors autant lui faire plaisir. Denis, patron G4, vu que les États-Unis dominent l'espace et que la France est dans l'élite, ça donne une raison de plus à l'Amérique d'arracher Paris à l'Europe, qui sent la France est plus nulle que l'Inde, scénario Sparte sous stéroïdes. C'est possible, alors de quoi il parle, pour ceux qui ne l'ont pas en tête. Scénario Sparte, c'est parce que dans le cadre de la guerre contre l'équivalent de l'Union européenne, qui était la Ligue Achéenne, de la guerre entre Rome donc et la Ligue Achéenne, une des conditions qui ont fait apparaître la guerre, c'est le fait que Rome a donné un ultimatum à la Ligue Achéenne en lui imposant de laisser Sparte quitter la Ligue Achéenne dans laquelle Sparte ne voulait plus être. Donc c'était une espèce de Sparte exit, si vous voulez. Et les États-Unis pourraient éventuellement, pour affaiblir l'Europe, effectivement, soutenir la sortie de la France de l'Europe. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a tout un tas de domaines, que ce soit l'IA avec Mistral, que ce soit le spatial, même que ce soit le militaire, ou si on reste, si l'Europe reste dans la course mondiale, c'est parce qu'il y a la France. Donc, oui, dans le cadre de manœuvres américaines pour empêcher l'émergence d'une Europe puissance, le fait d'essayer de sortir la France de l'Europe, ça pourrait être effectivement une stratégie. En tout cas, ça répondrait à un modèle historionomique connu. Et pour terminer, donc de Lucien Furquette, pardon, sans question, mais qui me fait bien plaisir, je te remercie. Alors la question en référencement, la question la plus likée sous la dernière émission était ceci. Assiste-t-on à une forme de révolution des valeurs dans laquelle la légitimité de ses leaders passe par le rejet du système actuellement en faillite. Comment expliquer que le côté rebelle de classe l'emporte médiatiquement? Dégénérescence temporaire du nouveau romantisme politique qui va durer, qui va l'emporter? Oula, alors la question est assez absconse pour moi. Révolution des valeurs dans laquelle la légitimité des leaders passe par le rejet du système actuellement en faillite. Alors, c'est-à-dire peut-être une révolution des valeurs dans laquelle, en gros, les nouvelles figures seraient des gens qui sont en opposition avec le système, étant donné que le système a perdu toute légitimité. D'une certaine manière, ils tireraient leur légitimité du fait qu'ils s'opposent à un système qui lui-même n'est plus légitime. Alors oui, c'est possible, mais je vois pas trop d'exemples actuellement. Comment expliquer que le côté rebelle de classe l'emporte médiatiquement? Alors là, je comprends pas. Je comprends pas, je suis isolé. Alors du coup, quand vous posez ces questions dans le référencement, essayez de poser une question très claire. Et s'il vous plaît, pour les gens qui likent, likez des questions qui sont claires, parce que sinon j'ai du mal à y répondre. Bien, bien, bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ça. Alors, je vais quand même aller faire un petit tour du côté des nouveaux souscripteurs sur, et puis voir aussi si on a des questions sur Tipeee, auxquelles notre ami Hiruman n'a point accès. Ah, ça y est, ça recommence. Alors, je suis en train de charger. N'oubliez pas de mettre des pouces. J'ai pas surveillé les pouces en direct. Est-ce qu'il y a des pouces? Je vais, parce qu'en plus vous êtes moins nombreux ce soir que les autres jours, la guerre nucléaire ne vend pas, hein. par rapport au déboire du budget en France, la guerre nucléaire ne vend pas. Alors, nous avons comme nouveau venu sur YouTube. On a eu, alors je crois qu'à l'époque, je sais pas, c'était il y a 6 jours, je sais pas si c'était lors de la dernière émission, est-ce qu'on avait déjà, bon, de toute façon au pire je les resalue, Jean-Philippe Kiel, S12 et Romec, voilà. Ensuite, sur Tipeee, qu'est-ce qu'on a? On dit, mais je remercie Thomas, je remercie Vincent. Est-ce qu'il avait une question? Non. Et Nicolas et Raphaël. Je participe de nouveau car je regarde beaucoup des vidéos publiées. Bravo pour ce travail. Merci beaucoup. C'est très gentil de mettre au pot. Et Raphaël que nous avons vu arriver aussi dans le Telegram. Très bien. Bon, bah écoutez, je pense que nous avons fait le tour. Je repasse pour voir si Hiruma a balancé quelque chose de nouveau depuis. Non. Alors, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. J'espère que cette émission vous a intéressé. Je vous dis à très bientôt. Vous laissez pas faire.